Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Jeudi 20 mars, bonsoir à tous. C'est déjà l'heure de la session soirée de l'info sur RFI. On est ravis de vous retrouver pour 3 heures d'actualité. Allez, avec au programme dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, consacrée ce soir à la Serbie. Avec cette question, est-ce que la révolte étudiante peut faire tomber le régime Vučić?
Oui, déjà 4 mois de manifestation contre la corruption du régime et la semaine passée, c'est une véritable marée humaine qui a défilé dans les rues de Belgrade pour réclamer la mise en place d'un état de droit dans le pays, une colère immense contre le régime du président Vučić qui de son côté n'entend rien céder. Le mouvement social peut-il renverser le régime? Quelles conséquences également pour le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne? On en parle avec nos invités François Lafont, ancien conseiller spécial de France en Serbie, et Ulrich Buna, analyste géopolitique.
Eh bien, tout à l'heure, juste après, le débat du jour se penchera sur la guerre commerciale voulue par Donald Trump, alors que ce jeudi, on entre officiellement, ça y est, dans le troisième mois du mandat du président américain. Donald Trump qui avance à grands coups de tarifs douaniers pour réduire le déficit commercial extérieur des États-Unis. Mais aujourd'hui, l'Amérique se trouve menacée de récession. D'où notre question, est-ce que la guerre commerciale se retourne contre Donald Trump? Quelles conséquences sur l'économie? Est-ce que le président américain peut faire marche arrière? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Belgrange, 18h30 TU Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. Et puis 19h10, temps universel, comme chaque soir. Votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Allemagne ce soir, où une violente polémique éclate autour du financement d'ONG trop critique des chrétiens démocrates. Enfin, le grand reportage sur le Mont Kenya. Le glacier disparaît et l'agriculture est menacée.
RFI.
Mais pour l'heure, à 17h de temps universel, c'est le journal de Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Romain Zoui, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, son voyage touristique dans le sud de l'Iran s'était transformé en un cauchemar qui aura duré 29 mois.
Après ses 2 ans et demi passés en prison, Olivier Grondeau est libre et de retour en France. C'est l'Élysée qui l'a annoncé ce matin. Les proches de ce Français de 34 ans accusé d'espionnage ont aussi toujours soutenu Cécile Kohler et Jacques Paris, qui eux restent détenus en Iran. C'est le cas de Tristan Bultio, ami d'Olivier Grondeau.
Cécile Kohler et Jacques Paris sont encore à Evin, dans la section 209, donc entre les griffes des services secrets iraniens. Leurs conditions de détention sont encore plus difficiles que celles d'Olivier, qui était détenu au quartier politique de la même prison. Donc la détention d'Olivier était déjà extrême, puisqu'il était confronté régulièrement à la présence de la mort, puisque ses co-détenus, qui étaient également souvent ses amis, étaient sous le coup de peines de mort arbitraires utilisées pour faire régner la terreur. Alors que Cécile et Jacques sont complètement coupés du monde extérieur dans des cellules de 9 mètres carrés peuplées par 3 co-détenus. Ils doivent dormir par terre, ils doivent solliciter les gardiens et leurs bourreaux pour ne serait-ce qu'aller faire leur toilette ou aller ou avoir l'hygiène la plus élémentaire. Et la lumière est allumée 24 heures sur 24 pour les désorienter. Et donc ce sont des conditions qui s'apparentent à de la torture selon le ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment une situation insupportable et pour nous il n'y aura de repos que quand Cécile et quand Jacques seront rentrés en France.
Tristan Bultio avec Oriane Verdier, un deuxième Français qui souhaite lui rester anonyme, a pu quitter également le territoire iranien. La nuit dernière, il était assigné à résidence dans la République islamique. Le guide suprême iranien qui qualifie de crime les frappes américaines sur le Yémen. Elles doivent cesser, avertit l'ayatollah Ali Khamenei dans le collimateur des États-Unis, les rebelles yéménites houthis alliés de Téhéran, mais également du Hamas, qui ont attaqué à plusieurs reprises ces derniers jours un porte-avions américain en mer Rouge. À Gaza, l'armée israélienne affirme aujourd'hui avoir tué le chef de la sécurité intérieure du Hamas lors d'une frappe ces derniers jours. Les opérations au sol israélienne se poursuivent aussi dans la bande terrestre, une action militaire que Donald Trump soutient pleinement. C'est en tout cas ce qu'annonce sa porte-parole cet après-midi. Après l'appel téléphonique entre justement le président américain et Vladimir Poutine, mardi, Russie et États-Unis gardent la ligne ouverte. Des responsables des deux pays vont se rencontrer en Arabie Saoudite lundi. La délégation de Washington qui va aussi s'entretenir avec des émissaires ukrainiens. C'est ce qu'a indiqué Volodymyr Zelensky, qui est actuellement en déplacement en Norvège. Le dirigeant ukrainien a aussi demandé à distance à ses partenaires de l'Union européenne réunis à Bruxelles de maintenir les sanctions contre Moscou, et ce jusqu'au début du retrait russe du sol ukrainien. Le sommet des 27 dédié notamment à l'étude d'un plan de 800 milliards d'euros pour renforcer leur sécurité. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, en est l'une des plus ferventes partisanes.
Je me réjouis de l'annonce du président Trump sur le fait que les États-Unis essayent de trouver des défenses aériennes supplémentaires pour l'Ukraine. C'est extrêmement important. Et bien sûr, nous discutons aujourd'hui de ce que nous pouvons faire de plus. Pour l'Ukraine, mon initiative va dans le sens des besoins du président Zelensky. J'ai proposé une aide de 5 milliards d'euros pour fournir des munitions à l'Ukraine. Nous devrions commencer à prendre des mesures concrètes, non seulement en paroles, mais aussi avec des actes pour aider l'Ukraine. Plus l'Ukraine sera forte sur le champ de bataille, plus elle sera forte à la table des négociations.
Kaya Kallas. Le Canada, lui aussi malmené par les États-Unis de Donald Trump, notamment sur la question des taxes douanières. Le pays qui ira au vote le 28 avril prochain. Le nouveau Premier ministre, Marc Carney, a déclenché aujourd'hui en effet des élections législatives anticipées. Son parti libéral cherchera à obtenir une nouvelle majorité au Parlement. Marc Carney, qui parmi les lignes à son CV compte notamment celle d'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Et pourtant, il vient de supprimer une mesure phare de la fiscalité environnementale, à savoir la taxe carbone pour les particuliers. Ce prélèvement, mis en place en 2019 par son prédécesseur Justin Trudeau, sera remplacé par ce qu'il appelle des incitations pour encourager les Canadiens à faire des choix plus verts, Stéphanie Schuller.
Le 1er avril, la taxe carbone imposée aux Canadiens quand ils passent à la pompe pour faire le plein allait atteindre 20 centimes de dollars par litre d'essence, au lieu de quoi ils ne la payeront plus. Marc Carney en a décidé ainsi. Le Premier ministre dit vouloir soulager les consommateurs particuliers de combustibles fossiles alors que les Canadiens doivent faire face aux conséquences de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Mais dans les faits, les revenus de la taxe carbone ont été redistribués depuis 6 ans aux citoyens sous forme de chèques directs, avec l'espoir qu'ils utilisent cet argent pour acheter un vélo, un véhicule électrique ou un autre équipement durable. Ce projet phare du gouvernement de Justin Trudeau, destiné à changer le comportement des Canadiens et ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce projet est sacrifié à l'approche des élections législatives, car l'opposition conservatrice a fait de la taxe carbone son cheval de bataille. Un deuxième volet de cette fiscalité climatique reste en revanche en vigueur, la taxe carbone pour l'industrie.
Stéphanie Schuller, des restaurants ou des hôtels écrasés sous la charge de travail, des chantiers qui patinent. Dans certains secteurs, les entreprises françaises peinent à recruter. Pourtant, des profils compétents, il y en a, notamment parmi les 600 000 réfugiés accueillis en France. Un statut qui donne le droit à ces personnes de travailler légalement. Hier, à Paris, la deuxième édition d'un salon leur était dédiée. Il est organisé par un réseau de 45 grandes entreprises pour essayer justement de dépasser des obstacles comme la barrière de la langue ou les lourdeurs administratives. Charlotte Cosset.
Cette Congolaise a obtenu son statut de réfugiée il y a 3 ans. Elle s'est formée au métier de la cuisine, un secteur sous tension, pourtant difficile de trouver du travail.
J'ai postulé en ligne, mais il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai postulé beaucoup.
10, 20 ?
Même 40. Hein.
Aucune réponse.
Ok, il y a réponse, il n'y a pas de place, madame.
Parmi les exposants, IDEX, spécialisé dans l'énergie, son coordinateur RSE, Anthony Lanluc, précise que l'entreprise dispose actuellement de 600 offres d'emploi dans toute la France, des métiers souvent techniques pour lesquels ils ont du mal à recruter.
C'est difficile, c'est pour ça qu'on s'ouvre à d'autres types de profils. On a des freins et des barrières un peu naturellement, mais je pense qu'il faut poser des questions et creuser un petit peu, et même parfois les candidats ne parlent pas de certaines expériences qui peuvent intéresser sur le poste.
Pour les entreprises qui auraient encore des réticences, Yasmine Leroux, directrice de Tent France, souligne l'apport des personnes réfugiées.
Ils permettent d'améliorer la diversité dans l'entreprise et donc ses sources d'innovation. Nous constatons également que les personnes réfugiées, du fait de leur parcours, sont particulièrement fidèles à l'entreprise qui les recrute, sont particulièrement motivées et résilientes. Et en général, ils ont des parcours assez notables dans les entreprises, donc c'est vraiment gagnant aussi d'un point de vue business.
Elle souligne également qu'il faut près de 10 ans à un réfugié pour retrouver un emploi à hauteur de sa qualification d'origine.
Charlotte Cosset. Et puis après 7 médailles olympiques en natation, Kirsty Coventry décroche un titre. La Zimbabwéenne est devenue cet après-midi la première femme à présider le comité international olympique, la première africaine également. À 41 ans, elle va succéder à l'allemand Thomas Bach pour un mandat de 8 ans. RFI, 18h10 à Paris.